dans les contextes où il y a deux personnes décideurs qui sont impliquées dans le développement d'un projet, puis par, tu sais, soit par souci d'équité, parce que les deux personnes sont des, on va dire, des copropriétaires d'une entreprise ou d'une application qu'ils veulent développer, ou parce que ils n'ont pas cru bon de définir un rôle principal, la personne qui allait trancher dans le contexte, bien là, ça fait en sorte qu'on se retrouve souvent avec des dragons à deux têtes. Oui, ça peut être pratique d'un point de vue client, des fois, de se séparer la tâche parce que, comme on l'a dit précédemment, ça demande quand même du temps et une implication. Par contre, le risque de faire ça, c'est que si les deux personnes ne sont pas parfaitement synchronisées, puis quand on parle de parfaitement synchronisées, c'est autant sur le besoin, la vision globale, mais au niveau des priorités puis de la compréhension qu'elles ont, bien là, ça fait en sorte que si les deux personnes ne sont pas toujours là en même temps, bien là, il va avoir des répercussions parce que là, une personne va prendre une décision, va mettre de l'avant sa priorité à elle, qui va peut-être être divergente ou avoir des répercussions sur le développement parce que là, finalement, à la prochaine rencontre ou deux rencontres plus loin, c'est l'autre dirigeant qui va être là qui, lui, n'avait pas nécessairement la même compréhension puis les mêmes priorités. Puis là, on va dire, ben voyons, pourquoi ça a été mis de l'avant? C'est pas ça qui était plus prioritaire pour moi. Ou, ah, c'est pas comme ça que je l'avais vu. Fait que là, à ce moment-là, ben c'est qu'on doit refaire ou rediscuter de choses qu'on avait déjà clarifiées.
Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelé SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Joannie Robitaille, directrice du développement logiciel ici chez OpenMind Dev2CEO et Legacy Recoding. Merci d'être avec nous encore cette semaine. Comment vas-tu?
Mais ça va bien, toi?
Ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on parle de dépassement de coûts dans les développements logiciels. On a quand même une bonne expérience dans le développement logiciel, une très grande expérience dans le développement logiciel, et on avait des discussions il y a quelques temps de ça, de qu'est-ce qui pouvait faire que ça peut être perçu comme quoi ça coûte cher du côté client ou que ça l'a dérapé carrément un projet. Et à force de discuter, on a pu identifier plusieurs comportements clients qui faisaient déraper les projets. On s'est dit, je pense que ça serait vraiment bon, un, de les répertorier, mais de pouvoir en parler sur le podcast parce que on se rend compte d'une chose, quand on évalue un projet, quand les clients viennent nous voir, dire combien ça peut coûter ce projet-là, nous, on prend pour acquis à la base que le client va bien se comporter. Et là, on se rend compte souvent que ce n'est pas le cas parce que le client ne sait pas comment il doit se comporter dans le développement et ça vient mettre beaucoup de sable dans l'engrenage et créer beaucoup de surcharge du côté du développeur qui est exemple de notre côté chez OpenMind. Et là, on s'est dit pourquoi pas se créer un outil pour réussir à vraiment limiter ces possibilités-là. Donc, de là a découlé un one-pager qu'on rend aujourd'hui à votre disposition, qui est disponible sur le site dev2ceo.com/fr/dépassement-coût, donc DEPASSEMENT-COUT. Donc, un petit one-pager que vous pouvez télécharger. Aujourd'hui, on va parler de 6 comportements clients, mais sur ce one-pager-là, vous avez en primeur 2 items de plus qui peuvent être identifiés là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette feuille-là? Nous, on s'en sert en début de projet dans nos mandats pour vous dire, voici, monsieur le client, qu'est-ce qu'on s'attend de vous comme comportement et comment qu'on va surveiller ça également à travers le temps pour être certain que c'est positif. Et même à la fin du projet, on va s'asseoir ensemble pour dire, est-ce qu'on a bien collaboré ensemble? Parce qu'on a une prémisse dans nos développements que c'est l'équivalent de vouloir gagner une compétition de danse à deux. C'est pas vrai parce qu'il y en a un des deux qui est bon que le groupe va gagner, le groupe de deux va gagner. Il faut que les deux parties collaborent et se marchent pas ses pieds et nuisent pas à l'autre parce que sinon c'est impossible d'aller décrocher le grand trophée du concours de danse. Et c'est un peu la même chose développer un logiciel sur mesure, c'est comme aller gagner une compétition de danse. Il y a deux parties. Il y a le client, il y a la partie qui fait le développement. Et là, il faut vraiment extrêmement bien collaborer, faire les bons pas ensemble au même mouvement, au même moment. Et cette feuille-là permet de s'assurer là, qu'on maximise les chances d'aller gagner la fameuse compétition de danse. Donc, on rend cet outil-là à votre disposition et aujourd'hui, on va parler entre autres de six comportements clés qu'il y a dans cette feuille-là qui est disponible en ligne. Et ça fait partie d'un de nos différenciateurs chez OpenMind d'accompagner les clients pour vraiment maximiser les chances de succès des développements. On se rend compte que plus on éduque les clients de comment on doit fonctionner, collaborer, plus qu'il y a de chances de succès au bout de la ligne. Donc, on débute, on tombe dans le vif du sujet. Joanie, peux-tu nous parler du premier comportement client qui peut vraiment rajouter du sable dans l'engrenage et faire déraper les coûts de projet?
Absolument. Mais là, je veux juste d'entrée de jeu dire, toi, tu donnes des exemples souvent avec les compétitions de danse. Du moins, ce n'est pas la première fois que je t'entends en parler. Moi, souvent, je vais aller avec la construction. Puis là, je me dis, moi, j'aime les rénos dans la vie. C'est pour ça que je prends la construction. Là, je commence à me dire, il y a de quoi te camoufler. Là, Jonathan, tu as envie de faire de la danse ou une compétition? Je pense que tu t'en viens avec ça bientôt. Je reste à l'affût. Fait que bref. Fait que je vais y aller, comme je te dis, peut-être avec certains exemples en cours de route, mais de mon côté, construction. Fait que urgence. Comme on disait, effectivement, un des éléments qu'on voit souvent, c'est le mode urgence. Puis quand on parle d'urgence, bien, on parle d'un client qui souvent voulait quelque chose pour hier ou qu'il veut pour demain, mais ça laisse vraiment peu de temps pour le développement. Puis souvent, les gens vont vouloir quelque chose dans le court terme, vont essayer d'être le plus rapide possible en se disant, bien, je me dépêche à te le demander, je veux l'avoir vite, puis je vais sûrement sauver de l'argent parce qu'on va, on va couper les coins ronds, là, on va dire ça comme ça. Mais souvent, c'est l'effet contraire qui se passe. C'est que là, on se lance dans la conception d'une solution, puis on n'a pas nécessairement pris le temps de bien évaluer le besoin. Donc là, on peut se lancer dans un paquet de directions. Puis là, les risques qui peuvent survenir, c'est de devoir se réorienter, redéfinir le projet. Ça peut occasionner des délais, ça peut occasionner des coûts supplémentaires parce que si la solution n'est pas, on n'a pas pris le temps de bien comprendre le besoin, de bien évaluer la bonne solution, puis la solution, c'est une chose, mais la solution dans son écosystème, parce qu'il peut avoir d'autres impacts, bien là, ça fait en sorte qu'on n'a peut-être pas bien répondu aux besoins ou seulement partiellement, fait qu'il va falloir y retravailler plus tard ou on n'avait pas pensé à certains autres enjeux qui pourraient survenir. Fait que de vouloir aller trop vite, de vouloir être en mode d'urgence, de ne pas laisser le temps aux gens de bien réfléchir, ça nous occasionne beaucoup de problèmes. Puis des fois aussi, ça ne nous permet pas d'avoir la vision globale ou d'augmenter la dette technique d'un projet.
Et c'est un bon point que tu apportes parce que moi, je l'ai vu dans des cas projet client, puis il a fallu mettre pied à terre avec les clients pour essayer de ralentir ce comportement-là. Toujours être en mode urgence fait qu'on change constamment les priorités, fait que constamment, on ne termine pas Absolument. Ce qu'on aurait dû bien terminer, donc on accumule une grande dette technique. D'ailleurs, on a un bon épisode là-dessus qu'on vous invite à écouter. On repousse des coûts en avant, ça fait que les fonctionnalités ne sont pas mises en marche. Ça veut dire qu'on s'en reparle dans 6 mois pour les mettre en marche. Quand on les met en marche, il y a des choses qui ont changé. Le développeur qui avait travaillé là-dessus était peut-être plus disponible. Et là, on accumule et ça fait que les coûts doublent, triplent, quadruplent. Alors qu'on aurait pu juste dire, gars, finissons les sprints dans lesquels on est en train de faire là, gardons les priorités telles quelles, puis dans 2-3 sprints, rentrons, ce qui est un peu plus urgent. Ça va être beaucoup plus bénéfique pour le client à moyen puis à long terme que de toujours se concentrer sur le court terme puis d'essayer d'adresser des urgences. Ça, moi, honnêtement, très, très souvent, quand un client peut me dire « Hey, ça coûte cher », puis on s'assoit ensemble, on se rend compte, c'est parce que le client est en mode urgence et constamment en train de faire le chien dans un jus de quilles. Et là, ça cause vraiment un problème. Nous, on n'a pas de problème à fonctionner comme ça, mais il faut que le client comprenne que ça a un impact sur le budget puis sur ce qui va être livré au final, là.
Ben absolument. Puis tu sais, quand je disais pour les exemples de construction au départ, tu sais, des fois, essayer d'aller trop vite, pas sortir les bons outils, pas prendre le temps de bien se positionner, ça fait en sorte qu'on va faire un paquet d'erreurs, un paquet de dégâts, puis ça va nous prendre plus de temps à réparer nos dégâts que si on avait juste pris le temps de placer notre environnement de travail. Puis d'avoir bien réfléchi à une rénovation va faire en sorte que tu vas prendre le temps de bien la faire, elle va réellement répondre à ton besoin, puis tu n'auras pas besoin de la refaire dans 2-3 ans, mettons.
Exactement. Et les gens ont le temps de finir ce qu'ils ont à faire à ce moment-là et non de l'envoyer toujours sur quelque chose de nouveau qui fait qu'on finit jamais rien, qui fait que jamais rien n'est fonctionnel et qui n'est jamais à complétion. Là.
Ben oui, puis ça te permet aussi de dire, ben je voulais faire ma salle de bain là, mais peut-être que dans un an ou deux, j'ai l'intention de faire la cuisine, puis est-ce qu'il y a de la tuyauterie qui communique ensemble, puis tant qu'à ouvrir mon mur pour la salle de bain, je vais préparer ce que je vais aller faire pour la cuisine tout de suite après, ce qui fait en sorte que tu n'auras pas besoin de réouvrir le mur dans 2 ans. Là. Ça a déjà été fait, ça a déjà été pensé. Fait que bref,
vive excellente les analogie.
Je sais.
J'aurais eu de la difficulté à faire des analogies sur une compétition de danse sur celle-là. Donc, Joanie, excellent au niveau construction.
Je te mets au défi d'en trouver d'ici la fin.
Challenge accepted. On y va pour le deuxième point, le deuxième comportement, une problématique au niveau de l'assiduité.
Absolument. C'est important là, de faire la distinction parce qu'il y a des gens qui vont être présents, qui vont collaborer, mais qui ne seront pas nécessairement assidus. Puis ça peut avoir l'air surprenant de dire ça comme ça, mais au final, oui, on est des experts en développement applicatif sur mesure, mais on ne travaille pas chez le client. Ce qui veut dire qu'on a besoin quand même du client. C'est lui qui connaît le mieux son monde, c'est lui qui connaît le mieux ses règles d'affaires. Donc, on s'attend quand on fait une évaluation, quand on fait une analyse que la personne qui va être responsable de développer l'application avec nous, elle soit assidue, qu'elle soit présente. Et puis, si ce n'est pas le cas, bien, ça fait en sorte que ça va occasionner ça aussi des dépassements de coûts parce qu'on va déplacer des rencontres sur lesquelles on s'était préparé. Ça va créer des délais. On va faire une sous-utilisation des ressources de production parce que là, bon, ils se sont préparés, ils étaient dedans, mais là, finalement, context switching, on remet ça de côté, il va falloir sortir plus tard, se remettre dedans pour se repréparer. Puis tout ça, ça fait en sorte aussi que quand on a des questions, des fois, on est dans le vif du sujet, on a des questions, on a besoin de clarifier certains éléments. Là, si la personne n'a pas le temps de contribuer à la discussion, de donner de la rétroaction, de s'impliquer, bien là, ça fait en sorte que l'équipe ne peut pas progresser aussi efficacement. Il y a beaucoup de zones grises qui vont se créer qu'on n'aura pas pu clarifier. Donc là, on ne prend jamais notre pleine vélocité, puis on n'est jamais dans l'efficacité de nos ressources. Fait que ça aussi, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais on vient additionner tout ça un après l'autre, bien, ça fait en sorte qu'il y a des dépassements.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V, le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode.
Donc, dans une analogie de compétition de danse, le partenaire traîne de la patte, n'est pas à son affaire, a oublié ses souliers puis ne se présente pas à la pratique à ce moment-là au bout de la ligne. Et là, je reviens au point que je disais dans l'introduction, c'est que nous, quand quelqu'un vient nous voir et dit « Peux-tu évaluer combien de temps ça peut prendre de développer mon idée, mon produit techno, mon logiciel? » Pour nous, par défaut, on pousse beaucoup à être à notre affaire. On a une de nos valeurs, c'est, excusez-moi l'expression en bon anglais, « get shit done », qui n'est pas d'excuse. On s'attend à ce que le partenaire avec ou le client avec qui qu'on travaille ait cette même assiduité-là et on ne met pas de marge de manœuvre dans nos offres de services parce que la réalité, on pense que le client doit être à son affaire par rapport à ça. Donc, si le client n'est pas à son affaire, n'est pas assidu, ça rajoute des coûts que nous, on n'a pas évalués et on n'a pas estimés, là.
Absolument. Puis, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va prendre à vos gens qui s'impliquent dans le développement dès le début du projet. Mais il faut le voir comme un investissement. Plus la personne, elle est là, plus qu'elle répond, plus l'application va être collée sur vos processus, plus ça va répondre à votre besoin, puis il y aura un retour sur investissement plus tard. Puis là, en passant, si tu tasses un peu ta tête, on le voit en arrière de toi, le get shit done, puis on fait « Oh, c'était arrangé avec le gars des vues. » Il était là.
Donc, vous aurez compris, pour ceux qui nous écoutent audio, il y a une version vidéo qu'on vous invite à regarder. Vous allez avoir le plaisir visuel de nous suivre dans nos interactions visuelles. Troisième point, Joanie, l'expérimentation.
Absolument. Puis là, encore une fois, on parlait de s'assurer que les gens qui sont impliqués dans le développement avec nous soient disponibles. Donc, l'expérimentation, ça en fait partie. Et ne pas confondre des tests et de l'expérimentation. Parce que souvent, quand on parle avec nos clients, ils disent « Ouais, mais je ne devrais pas avoir à tester. C'est votre job de tester. Je ne veux pas retrouver vos bugs. » Et puis ça, je suis 100% d'accord. On a notre travail à faire. C'est nous, l'expert, encore une fois, en développement. On a des processus pour trouver les bugs dans les meilleures pratiques de code, tout ça. Mais par contre, peu importe le nombre de tests qu'on va faire, on ne peut pas expérimenter aussi bien qu'un client, encore une fois, pour la simple et bonne raison que c'est pas notre domaine d'affaires nécessairement. On ne connaît pas, on ne sait pas comment les gens vont utiliser l'application. On émet des hypothèses avec la personne qui nous aide à développer sur comment les gens vont utiliser les fonctionnalités, mais on a besoin d'avoir certaines validations en cours de route. Puis c'est super important de ne pas attendre à la fin du projet quand on fait le déploiement final pour avoir cette expérimentation-là puis ce feedback-là, parce que on est rendu trop loin dans le processus. C'est à chaque livrable, on travaille en sprint, il y a beaucoup d'entreprises qui le font comme ça. À chacun des livrables, ça prend du temps. Ça prend quelqu'un qui fait cette expérimentation-là pour dire oui, ça répond réellement à mon besoin, c'est comme ça que je l'avais imaginé, ou non, ou attends une minute, parce que quand on a émis l'hypothèse, je le voyais comme ça, mais maintenant que je l'ai dans les mains, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin, je pense qu'on pourrait le modifier comme ça, et tout ça. Puis encore une fois, c'est super important de le faire pendant ces étapes-là, parce qu'on a les mains dans le code. On a déjà les murs d'ouvert, encore une fois, là, si je peux y aller d'un point de vue construction. Le mur est ouvert, c'est le temps d'aller jouer dedans. C'est pas un coup qu'on l'a fermé que c'est le temps de réaliser qu'on a besoin de faire des modifications, parce qu'en plus de ça, ça se pourrait que pour toi, ce soit bien simple. Enfin, tu dis, ah, t'as peu, moi, j'aurais aimé mieux avoir telle affaire, j'aimerais ça qu'on le modifie, mais telle affaire affecte un paquet d'autres affaires qu'on avait faites en cours de route, fait que c'est plus juste de modifier ce que tu nous demandes là. Tous les impacts que ça a dans le reste de l'application, il faut revenir y toucher. Tandis que si on le fait au fur et à mesure, on corrige tout de suite, puis on prévoit déjà l'impact que ça va avoir dans le reste du développement, puis on l'anticipe.
Et tu mentionnes que le mur est encore ouvert, mais la réalité, c'est qu'en plus du mur qui est ouvert, le coffre à outils est encore là.
Exactement.
La personne qui connaît la job, elle est encore disponible. Si le client prend des semaines, voire des mois à faire ses expérimentations, il demande des choses, c'est sûr que le coffre à outils, puis là, il est fermé, il est rendu sur un autre chantier. Puis la personne qui connaissait comment que le travail a été fait est probablement sur un autre projet ou une autre tâche. Et le mur est fermé, là. Donc, c'est là que ça vient coûter extrêmement cher en supplément et en extra si le client n'est pas à son affaire pour faire les expérimentations dans les délais qui sont logiques et requis d'être faits, là.
Absolument. Puis, tu sais, là, après ça, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si je demande des modifications, ça aussi, ça va occasionner des coûts supplémentaires. Ça se peut. Mais l'équipe de développement, tu sais, notre objectif, c'est de livrer le maximum de valeur pour le client. Puis, c'est des discussions qu'on va avoir ensemble. C'est quoi le budget? Qu'est-ce qu'on est capable de livrer pour le budget que le client a? On peut se permettre d'être créatif. Puis, des fois, peut-être qu'on va se rendre compte que cette fonctionnalité-là de plus est bien plus importante aux yeux du client puis des utilisateurs qu'autre chose qu'on avait, qu'on va peut-être juste décider de mettre dans des nice to have qu'on attaquera potentiellement plus tard, mais puis au final, où ça se peut qu'on ait une discussion avec le client de dire, ben oui, tu sais, le retour sur investissement va être bon, ça va te coûter un peu plus cher, mais ça va te faire tellement sauver de temps que ça vaut vraiment la peine de le faire. Mais tout ça, ça se discute en cours de route puis pendant qu'on avance.
Excellent point. Quatrième comportement qu'on peut voir, ou quatrième décision que le client peut choisir du mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le mode arrêt-reprise. Peux-tu nous expliquer, Joanie, un petit peu c'est quoi, puis en quoi que ça peut faire gonfler là, drastiquement la facture d'un développement logiciel?
Bien, absolument. Tu sais, le stop and go, là, même principe, c'est que dans le fond, un projet, une application, autant que n'importe quel projet, il y a toujours une vélocité qui se prend en cours de route. Tu sais, au démarrage, on apprend, on commence à mettre en place le projet, donc la vélocité, elle est plus courte, mais habituellement, autour de 3-4 sprints de développement, on atteint une pleine vélocité, une pleine vitesse parce qu'on a bien compris le fonctionnement, tout le monde est rodé. Par contre, si on arrête toujours la production parce que le client dit « ben là, j'ai plus le temps de m'impliquer, j'ai plus le temps d'expérimenter. Finalement, il y a un changement dans mon budget, je ne l'avais pas prévu, j'aimerais ça qu'on ralentisse et tout ça. » Souvent, on va voir ça justement dans des clients qui étaient plus en mode urgence au début, donc qui avaient moins pris le temps d'y réfléchir. Là, tout ça, ça va ensemble. Mais ça fait en sorte que là, l'équipe qui avait bien compris, qui baignait dans le projet puis qui avançait plein gaz, arrête. Donc là, nécessairement, ça a un effet de freiner, de créer un impact sur la vélocité parce que là, bien, si ça prend des fois 2-3 semaines avant qu'on reparte, bien là, on n'a plus les mains dans le code. Fait que là, il faut s'en remettre dedans. Fait que là, il faut réapprendre. Fait que là, cette reprise de vélocité-là, sur le coup, des fois, apparaît minime pour le client, mais à long terme, ça a un impact, encore une fois. Puis d'un point de vue opérationnel aussi, bien, les ressources vont-elles encore être disponibles au moment où le client va être prêt à repartir ou ils vont avoir été assignés sur un autre projet qui, lui, était prêt à démarrer? Mais là, on ne peut pas garantir la disponibilité des ressources. Donc, s'assurer qu'on est prêt à démarrer, qu'on a bien pensé notre projet puis qu'on va être disponible pour le faire, tu sais, du début à la fin sans arrêter, va nous assurer là, un meilleur respect des budgets.
Puis c'est un bon point, Joanie, par rapport aux joueurs, aux ressources qui vont être sur le cas. Souvent, je vais dire qu'il y a trois éléments qui sont requis pour être à succès ou du moins bâtir un niveau de confiance assez élevé pour arriver à succès. Le premier élément, c'est la capacité technique du joueur, donc de bien comprendre le langage, le framework, peu importe du projet. Ça, c'est une chose. Le deuxième élément, c'est la connaissance des processus de l'entreprise qu'on dessert. C'est quoi la réalité d'affaires? C'est quoi les processus, les procédés, les implications? Et le troisième facteur, c'est la connaissance du projet en tant que tel, parce qu'on peut connaître ce que l'entreprise fait, mais on ne connaît pas du tout le projet, puis où est-ce qu'on en est, puis c'est quoi les priorités au bout de la ligne. Donc, si vous faites du stop and go, donc l'arrêt, de la reprise, des choses comme ça, c'est ultra difficile de mettre constamment les mêmes joueurs sur votre projet, ce qui fait que souvent, on va avoir juste le premier facteur à succès qui va être là, qui est la capacité technique, mais ça va être des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas l'entreprise, puis ça va être des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas le projet dans son état actuel, puis dans ses priorités, puis dans son étendue au bout de la ligne. Donc, de toujours changer les joueurs qui sont sur un projet crée cette problématique-là, où on vient perdre énormément de force, énormément de valeur, énormément de vélocité. Et ça, bien, pour arriver à un résultat similaire au bout de la ligne, ça prend beaucoup plus de temps, donc ça vient faire gonfler la facture là, extrêmement rapidement.
Bien, absolument. Puis même pour les personnes qui s'occupent de l'application du côté du client, des fois, on va avoir des discussions, on a demandé des fonctionnalités, il y a des spécifications qu'on a mises. Puis là, si on attend trop longtemps, bien là, qu'on ne se souvient plus pourquoi est-ce qu'on voulait ça, pourquoi est-ce qu'on avait dit ça. Fait que là, il faut revenir en arrière. Ça aussi, ça prend du temps. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué.
Prochain point, avant-dernier point, drôle de nomenclature, mais je l'aime beaucoup parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans le passé, c'est le comportement du dragon à deux têtes. Joanie, on t'écoute.
Absolument, on en a déjà fait mention là, d'ailleurs dans d'autres podcasts. Dans le fond, c'est dans les contextes où il y a deux personnes décideurs qui sont impliquées dans le développement d'un projet, puis par souci d'équité, parce que les deux personnes sont des copropriétaires d'une entreprise ou d'une application qu'ils veulent développer. Ou parce qu'ils n'ont pas cru bon de définir un rôle principal, la personne qui allait trancher dans le contexte, bien là, ça fait en sorte qu'on se retrouve souvent avec des dragons à deux têtes. Oui, ça peut être pratique d'un point de vue client, des fois, de se séparer la tâche, parce que comme on l'a dit précédemment, ça demande quand même du temps et une implication. Par contre, le risque de faire ça, c'est que si les deux personnes ne sont pas parfaitement synchronisées, puis quand on parle de parfaitement synchronisées, c'est... autant sur le besoin, la vision globale, mais au niveau des priorités puis de la compréhension qu'elles ont, bien là, ça fait en sorte que si les deux personnes ne sont pas toujours là en même temps, bien là, il va y avoir des répercussions parce que là, une personne va prendre une décision, va mettre de l'avant sa priorité à elle, qui va peut-être être divergente ou avoir des répercussions sur le développement parce que là, finalement, à la prochaine rencontre ou deux rencontres plus loin, c'est l'autre dirigeant qui va être là qui, lui, n'avait pas nécessairement la même compréhension puis les mêmes priorités. Puis là, on va dire, bien, voyons, pourquoi ça a été mis de l'avant? C'est pas ça qui était plus prioritaire pour moi. Ou, c'est pas comme ça que je l'avais vu. Fait que là, à ce moment-là, bien, c'est qu'on doit refaire ou rediscuter de choses qu'on avait déjà clarifiées à un certain moment. Ou on va changer de direction, puis là, on va faire des zigzags. Fait qu'encore une fois, ça va affecter la vélocité. Fait que tout ça fait en sorte que ça va avoir un impact sur le développement du projet. Donc, on suggère fortement... En fait, on devrait même l'imposer avec l'expérience qu'on a aujourd'hui. C'est une personne qui doit avoir la vision globale, qui doit prendre les décisions. Oui, elle peut consulter ses collègues, mais c'est elle, au final, qui doit trancher puis qui doit garder cette compréhension-là du développement de l'application puis où on s'en va avec ça.
Et c'est tellement un bon point que tu apportes, Joanie, là-dedans, parce qu'on l'a vu dans des développements clients où, justement, des fois, un décideur a mis quelqu'un en place pour gérer le projet. Le décideur apparaît de temps à autre. Là, il y a comme deux décideurs à ce moment-là. Et on fait quelque chose, on le refait, parce que les gens ont des opinions différentes de comment ça devrait être fait. Et finalement, on se retrouve à refaire quelque chose de manière quatre fois différente pour arriver au même résultat que la première fois. Et ça coûte quatre fois plus cher, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est complètement illogique, là.
Bien, absolument. Puis, tu sais, c'est comme quand on dit apprendre à déléguer. Bien, il faut accepter que la personne à qui on délègue va peut-être pas prendre le même chemin que nous, on aurait pris, mais qu'on se comprend sur le résultat qu'on veut avoir. Puis, si on n'a pas ça, bien, si on n'est pas à l'aise de déléguer en ayant cette compréhension-là, on est peut-être mieux de le garder pour nous-mêmes. Fait question à se poser, mais s'assurer de ne pas créer de dragon à deux têtes.
Et par contre, si on ne délègue pas, des fois, on peut avoir un impact sur l'assiduité et la disponibilité. Donc, il y a une balance à faire d'un côté comme de l'autre. C'est là qu'il faut prendre des décisions et s'y tenir par la suite.
Absolument.
Et de protéger son horaire en conséquence. Dernier point, Joanie, on parle de formation et d'intégration.
Absolument. Ça touche deux points, en fait. Ça touche, et oui, le fait que ça peut occasionner des coûts supplémentaires au développement, mais aussi ne pas aller chercher pleinement le retour sur investissement. Fait que, souvent, on va avoir une perception que quelque chose nous a coûté cher si on ne voit pas la valeur que ça nous a ajouté. Puis au contraire, si on voit vraiment la valeur que ça nous rajoute, on dirait que le prix est plus facilement explicable au-delà de ça. Donc, formation, intégration à ne pas sous-estimer. Parce que si on ne forme pas adéquatement son équipe par souci d'économie, on ne veut pas arrêter tout le monde dans l'organisation pour prendre le temps d'expliquer comment fonctionne une application. On sait que les gens vont l'apprendre on the spot ou on va former le superviseur, puis le superviseur, ben, avec la compréhension qu'il en a, ben, il formera ses joueurs à lui. Ce que ça fait, c'est que souvent, on n'utilise pas l'application correctement. On ne l'utilise pas à sa pleine capacité non plus, donc on ne va pas chercher le retour sur investissement pleinement qu'on avait prévu. Puis clairement, une solution qu'on n'utilise pas représente une perte d'investissement, clairement. On ne va pas aller chercher le gain en efficacité ou en productivité qu'on avait pu ou qu'on avait évalué au départ, mais c'est aussi que des fois, une personne qui n'a pas bien compris comment utiliser une application peut penser qu'une fonctionnalité, c'est un bug, la façon de réagir. Ce n'est pas nécessairement un bug, c'est peut-être la façon de l'utiliser qui n'est pas adéquate. Puis souvent, on se rend compte qu'il y a des dirigeants qui vont décider de modifier l'application plutôt que de mieux former son équipe. Mais au final, ça coûte beaucoup plus cher de modifier le comportement d'une application que de prendre un peu de temps avec son monde pour expliquer comment est-ce que ça aurait dû être fait au départ.
Excellent point, Joanie. Avant de terminer, est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais rajouter sur le sujet?
Non, ça faisait le tour pour moi.
C'est complet. Merci, Joanie. On vous rappelle d'aller télécharger l'outil gratuit en ligne devtoceo.com/fr/dépassement-coût. Le lien est également disponible dans les notes de l'épisode. On vous rappelle également qu'on produit tout ce contenu avec amour et gratuité pour vous. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est d'aller mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée et ou de venir nous écrire sur LinkedIn pour nous dire ce que vous avez aimé ou moins aimé des épisodes. Si vous avez également des idées d'épisodes, n'hésitez pas à nous écrire. Mon nom est Jonathan Léveillé. Vous pouvez me rejoindre directement sur LinkedIn. Joanie, merci beaucoup encore de ta présence très pertinente. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.